Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondé. Avec le soutien des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de France, de Suède, d'Allemagne et de Belgique.
Comment assurer l'éducation sexuelle des adolescents? Vous savez, dans plusieurs familles congolaises, la sexualité demeure un sujet tabou. Beaucoup de parents éprouvent une certaine gêne pour aborder avec leurs enfants les questions liées au sexe. À résultat, ces derniers apprennent des choses dans la rue, auprès des amis qui ont déjà eu quelques expériences. Par curiosité, certains se livrent à la vie sexuelle précoce avec tous les risques que cela comporte. Comment parler de la sexualité avec vos enfants? Paul Mboula, éducateur et formateur au service central de l'éducation à la vie, est notre invité aujourd'hui. Monsieur Paul, c'est vrai qu'aujourd'hui, la sexualité demeure un sujet tabou hein, dans nos familles.
Effectivement, je suis de votre avis. La sexualité demeure un problème. Et pas seulement la sexualité. Il y a un problème de dialogue dans les familles aujourd'hui.
Oui.
Avec l'emploi de temps des parents, l'emploi de temps des enfants, il est souvent difficile qu'on puisse se retrouver ensemble pour échanger autour des questions essentielles de la vie. C'est pourquoi... D'emblée, je dirais, avant d'aborder la question de la sexualité,
oui.
Déjà la question du dialogue en famille pose problème. Et or, c'est la solution magique de la préparation des enfants à la vie en général, et en particulier une préparation à la vie sexuelle. Pourquoi ? Parce que l'adolescent, avant de poser son problème de sexualité, a commencé par être un petit enfant qui a posé mille et une questions autour de la sexualité, déjà à 3 ans, 4 ans, sans être adolescent, et plus tard, il confronte ce qu'il a appris en famille à ce qu'il va rencontrer dans la communauté, à travers les amis, à travers d'autres adultes, parfois qui sont véreux, et qui produisent ces déviations que nous sommes en train d'observer chez les jeunes. Donc, si on doit parler éducation sexuelle,
oui.
On doit se dire comment préparer l'enfant à assumer de façon responsable sa sexualité. Et cela commence déjà au niveau de berceau. Pourquoi ? Parce que même aujourd'hui, la question des discriminations stéréotypes dénoncées autour du genre
oui.
sont le résultat d'une mauvaise préparation de la masculinité et de la sexualité. C'est pourquoi, quand nous disons que nous voulons aider l'adolescent à accepter et à assumer de façon responsable sa sexualité, nous devons dire, parents, quand faut-il commencer déjà à vous préparer ou à préparer votre enfant
à s'assumer correctement. Vous dites déjà que l'éducation démarre dès le berceau.
L'éducation démarre dès le berceau parce que vous savez oui. qu'un garçon n'est pas toujours habillé comme une fille.
Oui.
Et ça, c'est une façon sociale de montrer que la sexualité n'est pas que l'affaire de l'individu, mais c'est l'affaire aussi de la communauté.
Donc, faut commencer à dire à l'enfant, par exemple, qu'il y a une année ou deux ans, voilà, tu es habillé différemment de ta sœur, c'est-à-dire que toi, tu es garçon et elle, elle est fille.
Ben, déjà, l'école maternelle le fait. Tous ceux qui ont des enfants à l'école maternelle savent qu'à deux ans, trois ans, quatre ans déjà, on dit aux uns qui sont des garçons, aux autres sont des filles. Et on peut déjà dire comment les garçons se comportent, avec un effort à faire pour que les garçons comme les filles s'assument et acceptent leur sexualité. Parce que si on n'a pas bien accepté dès le départ son appartenance sexuelle, qu'est-ce qui arrive ? Les déviations sont observées plus tard.
Parce qu'on a même suivi, il y a un témoignage d'une maman, vous savez, à un certain âge, les enfants posent beaucoup de questions. Et un enfant qui posait à sa mère la question de savoir, il voulait savoir le nom de son sexe. Et la mère s'est gênée, elle a dit non, ça s'appelle Mapeka. Et voilà, l'enfant retient ça. Et est-ce que c'est une bonne façon d'informer l'enfant, d'éduquer l'enfant sur la sexualité?
Ce n'est pas une bonne façon. Et d'ailleurs, je me dis, l'enfant ne poserait pas sa question aussi crûment
oui.
de savoir ce que c'est là. Mais l'enfant peut, par exemple, vous provoquer en disant « Maman, j'ai mal ici
oui. ».
Et quand il dit « j'ai mal ici », c'est à vous de lui dire ce qu'il ressent. Et la question souvent banale que les enfants posent à 3 ans,
oui.
c'est « d'où vient le bébé ?»
Et tous les enfants...
Et là, les parents sont embarrassés. par en craignant simplement oui. qu'une deuxième question vienne.
Oui.
Ça, c'est dans la psychose des adultes.
Oui.
Mais dans l'innocence de l'enfant, il n'y a pas une deuxième question.
Oui.
L'enfant veut savoir où est-ce qu'on a eu bébé.
Alors, quelle est la réponse appropriée qu'il faut donner à l'enfant à ce moment-là?
Dans le langage de l'enfant, adapté à l'enfant, on lui dit « je l'ai accouché ». Ça, c'est en français, c'est facile.
Oui.
Mais dans nos langues traditionnelles, on peut trouver également une explication aussi simple que, comme je l'ai dit en français, c'est moi qui l'ai accouché. Je l'ai accouché à la maternité. Pour des enfants qui parlent français, je ne vois pas pourquoi est-ce que l'enfant va vous poser une deuxième question. Je l'ai accouché à la maternité. Plus tard, il va poser la question, comment on accouche? Et il n'aura pas 2 ans, 3 ans,
oui.
celui-là aura un âge plus avancé.
Plus avancé.
Il aura lui-même accumulé suffisamment de vocabulaire qui lui permettra de comprendre le processus de l'accouchement.
Et quel est comment le parent va répondre à cette question?
Il faudra maintenant être en face de cet enfant qui a quel âge? Je veux savoir, Daniel.
Bon, admettons que l'enfant a par exemple 10 ans.
Ah, 10 ans, mais oui. c'est facile à faire comprendre. D'ailleurs, à 10 ans, on sait que maman a été à la maternité. À 10 ans, on sait que maman était enceinte.
Oui.
Et les enfants grandissent dans le sein maternel. À 10 ans, on peut facilement dire à un enfant qu'il a déjà, d'ailleurs, il a découvert à 3 ans qu'il a des organes qui lui permettent non seulement d'uriner, mais des organes qui lui permettent de la reproduction. C'est à partir de ce moment-là qu'on pourra dire, voilà, c'est grâce à ces organes que l'enfant est sorti du ventre. Et la question est simple, ça ne pose pas de complications du tout.
Oui, parce qu'il y a parfois des enfants, on a vu certains enfants qui sont trop curieux et qui posent des questions et qui gênent les parents. Et voilà, les parents réagissent, « Yo, karamounoko, ou bien,
c'est
toi, tu poses trop de questions. »
Ce n'est pas aider l'enfant quand tu l'arrêtes comme ça. Parce qu'il a soif de savoir, c'est un besoin qui est naturel. Et il faut répondre de façon naturelle, parce qu'il n'y a rien à se culpabiliser. Mais le problème, Daniel, sans s'éloigner de comment nous allons faire l'éducation sexuelle, c'est le fait que la sexualité est entourée de certaines valeurs. Et la première, c'est la pudeur. On va chercher quel mot peut ne pas blesser l'enfant ou ne pas provoquer, scandaliser l'entourage.
Oui.
C'est pourquoi parfois on se dit, je ne sais pas comment m'y prendre. Mais alors, je vous dis que la solution, c'est d'être naturel. Je disais que l'éducation sexuelle commence tôt. Pourquoi? Parce que dans la petite enfance, il y a ces questions qu'il va poser. Et avant l'adolescence, il y a une période où il va commencer maintenant à comparer ce qu'il a appris en famille et avec ce qu'il va rencontrer dans la communauté.
Oui.
C'est la période dite de latence. Et pendant ce temps-là, il est très observateur. Latence ne veut pas dire calme total, non. Il observe et il se questionne. Il se questionne lui-même. Il commence à questionner ses amis.
Il veut avoir des réponses.
Il veut avoir maintenant des réponses dans la communauté pour voir le degré de sincérité des parents. Le mot-là, Daniel, est très important. Sincérité des parents.
Des parents.
Parce que dès que l'enfant réalise que vous n'avez pas été sincère avec lui,
il va chercher la réponse ailleurs.
Il s'est mis... Il cherche la réponse ailleurs et il se méfie complètement de vous. Il choisit désormais d'autres sources, notamment les livres, notamment l'Internet, notamment l'entourage, les pères, pour obtenir la réponse, parce que ce sont les pères qui informent mieux. Vous savez que même dans nos quartiers, quand vous observez ces grands jeunes qui ne travaillent pas, parfois qui fument déjà, qui passent le temps avec les jeunes, parfois essaient de donner leur éducation à la vie, comme on l'a dit là. Et cette éducation à la vie est pleine de
des erreurs, des
incohérences et de fausseté. Mais qu'est-ce qui arrive? Si l'enfant a déjà été informé correctement, il peut même contredire, il peut même expliquer.
Voilà, on y revient tout à l'heure. Vous avez des questions, des réactions, composez le 081-890-6394. Notre invité Paul Mboula, éducateur et formateur au service central de l'éducation à la vie, est là pour vous rendre service.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Nous avons déjà en ligne un auditeur qui nous appelle du Vandundu. Malonda, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Bon, ma préoccupation est celle-ci. Je demande à notre invité, à quel âge peut-on commencer à donner cette éducation à nos enfants? Puisqu'il y a des enfants qui sont avancés en âge, mais peut-être la maturité dans son cerveau n'est pas encore en mesure de supporter le niveau de cette éducation.
Merci, Papa Malonda. Je dirais que l'âge, n'est, comme vous le dites d'ailleurs dans votre intervention, l'âge n'est pas chronologique. L'âge est mental. C'est l'ambiance, l'environnement que vous allez créer qui vous permettra de déterminer le besoin de votre enfant et d'y réagir. La première chose, il ne faut pas brutaliser. Comment les parents arrivent à brutaliser? C'est qu'il dévance l'enfant, qu'il crée un besoin qui n'est pas celui de l'enfant. C'est-à-dire, je me dis, bon, mon enfant a 2 ans, mon enfant a 3 ans, comme tous les enfants, j'ai lu dans les livres, tous les enfants à 3 ans posent des questions, comme le mien ne pose pas de questions, c'est qu'il n'est pas normal. Au contraire, adaptez-vous au caractère de votre enfant et vous allez favoriser le dialogue. Je disais ça à Daniel tout à l'heure, le dialogue commence si même au berceau. Pourquoi? Parce que les enfants, nous avons des expériences, des enfants à qui on a parlé très tôt au berceau ont même parlé plus tôt. Et comme ils ont parlé plus tôt, ils ont acquis un langage qui leur permet d'acquérir rapidement de vocabulaire pour poser des questions, pour réagir à ce que disent les parents. Donc l'âge, je voulais dire que l'âge fixe n'existe pas, mais l'âge de l'enfant correspond à ce besoin. Lorsque vous parlez à votre enfant, il va vous poser souvent des questions, des bonbons, des biscuits, puis à un moment donné, ça ne sera plus les bonbons, ça sera plutôt les grandes questions essentielles de la vie.
Voilà. Alors, venons-en à présent aux adolescents. L'adolescence, c'est une période difficile. Et souvent, les adolescents, ils apprennent, ils se retrouvent pour voir des films porno, soit lire des ouvrages, des revues pornographiques, tout ça. Ils apprennent dans des conversations avec des amis. On dit, voilà, si tu n'es pas encore sorti avec une fille, tu vas tomber malade. Et beaucoup d'infos qui circulent autour de ça. Comment les parents peuvent parler de la sexualité avec les adolescents?
Je disais que l'adolescence est une conséquence de la phase de la petite enfance et de la période de latence.
Oui.
Si le parent avait raté ces deux périodes, il doit se ressaisir et même demander pardon à son enfant. Indirectement, il peut le dire directement, comme il peut le dire tacitement, en invitant parfois son enfant au dialogue. À parler des questions d'abord de l'école. Puis après, dire quelles sont les personnes qu'il fréquente, de quoi il parle, est-ce qu'il a des questions qu'il peut poser à ses parents, est-ce qu'il a remarqué qu'il y a une certaine contradiction entre ce qu'il vit à l'école, dans la communauté, et ce que nous vivons. À ce moment-là, l'enfant va commencer de plus en plus à se révéler.
Donc c'est le parent qui doit le mettre en confiance, provoquer un dialogue.
Voilà.
Par exemple, est-ce que tu as déjà une petite copine
C'est trop gauche. Hein, vous
c'est
dire,
trop gauche.
Oui, parce que même
il risque de ne pas
dire. Au-delà de ça, la CDE vous interdit d'entrer trop profondément dans l'intimité de l'enfant.
La CDE, c'est quoi?
C'est la Convention relative aux droits de l'enfant.
Oui.
Vous interdit même d'entrer dans l'intimité de l'enfant lorsqu'il ne veut pas vous faire y entrer. Et alors, c'est une question gauche de dire, est-ce que tu as une petite copine? Et s'il n'en a pas, c'est comme si vous l'invitiez à en avoir.
À en avoir. Et s'il en avait, il ne va pas vous le dire.
Il va vous le dire.
Alors, comment alors le pousser à s'ouvrir?
Comment le pousser à s'ouvrir? Dans les échanges, vous verrez qu'un jeune homme qui a déjà une expérience, quand, par exemple, vous prenez une étude des cas, c'est-à-dire vous prenez un exemple d'une situation vécue dans une des familles du quartier,
oui.
Vous critiquez autour de la table, maman...
Par exemple, il y a l'enfant du voisin qui a engrossé une fille.
Par exemple, et on dit, voilà, on lance. On dit, le petit là doit engrosser la femme parce que son école ne l'a pas aidé.
Oui.
C'est une façon de lancer la question.
Oui.
La maman va réagir en disant, tel qu'ils sont toujours ils ont toujours vécu là, pensez-vous que il peut y sortir un enfant bien éduqué là-bas?
Oui.
Cela montre déjà, lance déjà dans le débat.
Oui.
Et si dans cette famille les enfants sont aussi écoutés, ils pourront dire, oh, écoutez, qu'est-ce que nous n'avons pas vu ici? Et c'est à ces moments-là que vous profitez.
Ils peuvent dire aussi, dans notre école, il y a tel qui a sa copine là-bas, c'est tout ça. D'ailleurs, ils se sont battus l'autre fois.
Et là, vous abordez la question de la sexualité de façon naturelle, sans avoir provoqué directement le petit, pour savoir s'il a commencé déjà à fréquenter les filles.
Aziza nous appelle depuis Bukavu. Bonjour Aziza.
Oui, bonjour, bonjour Jody, bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
En fait, j'aimerais poser une question à l'invité, parce que si nous avons une petite fille qui pose souvent beaucoup de questions et qui dépasse son âge.
Oui.
Alors j'aimerais savoir, bon, imaginez qu'un jour elle a posé la question à sa mère de savoir d'où provient le bébé, comment on fait pour accoucher.
Oui.
Et comme la maman était un peu embarrassée, elle a exactement répondu que non, on ouvre grandement la bouche et le bébé sort.
Oui.
Alors, je ne sais pas si on doit lui dire la vérité. Donc, jusque-là, elle est là, mais elle sait que non, pour accoucher, on doit ouvrir la bouche et le bébé sort.
Le bébé sort.
Alors, je ne sais pas si on doit lui dire la vérité ou bien qu'on laisse grandir comme ça. Si oui, comment doit faire pour lui dire cette vérité-là?
Merci, maman Aziza. Je pense que vous ne quittez pas l'antenne. Je vous pose la question, quel âge a cet enfant? Et quand vous dites que... Combien?
2 ans et demi.
Deux ans et demi. Vous pensez qu'on l'a trompé? Quelle vérité doit-on lui dire? Que vous craignez de lui dire?
Ah, on l'a trompé, bien sûr. Est-ce que pour accoucher, on doit ouvrir la bouche? C'est
non.
Pas ça, la vérité.
La vérité, c'est quoi? Je vous ai eu. Donc, vous-même, vous êtes incapable de dire ce que vous pensez que ce soit vrai, n'est-ce pas?
Oui. Donc, c'est un peu un embarrassant. Donc, elle pose tous les jours, elle doit poser des questions. Donc, un peu gênant, quoi.
Non, c'est pas du tout gênant. C'est même innocemment qu'elle pose ces questions. Je l'encourage et j'encourage la maman. Et c'est déjà le moment de corriger et de répondre naturellement aux questions. Qu'est-ce qui fait qu'elle pose des questions? À quel moment elle pose des questions? Et comment vous devez vous prendre? Qu'est-ce qui déclenche chez lui ces questions-là? C'est ce que nous sommes en train d'essayer d'aborder en parlant de cette petite fille.
Alors, qu'est-ce que la maman de cet enfant doit lui dire exactement?
Maman Aziza, la maman du bébé doit déjà dire à son enfant que vous m'avez vu enceinte. Ou encore, dans le quartier, vous avez vu une maman qui est grosse.
Avec un gros ventre.
Un gros ventre. C'est que là-dedans, il y a un bébé qui est en train de croître. Toi aussi, tu as été bébé et tu as grandi dans mon ventre de cette manière-là. Et comme c'est une fille, lorsque maman et sa fille sont ensemble, lorsque l'enfant va uriner, il pourra lui dire, ce que tu as là, ce n'est pas seulement une sortie pour les urines, c'est aussi une sortie pour les bébés, pour les grandes dames. Donc, toutes les grandes dames ont une sortie des urines qui est aussi une sortie
des bébés.
Est-ce que là, maman Aziza, avec tous ceux qui nous écoutent, est-ce que j'ai été impudique?
Voilà.
Ah, cette fille-là, elle pose beaucoup de questions. Donc, si vous dites que non, elle sort de l'enfant sans du fibre, je ne sais pas. Ok, on va essayer.
N'étouffez pas le savant qui est en train de grandir autour dans notre pays. Répondez, remplissez déjà sa tête parce que, au fur et à mesure que vous répondrez à ces questions, il deviendra de plus en plus intelligent. Et si vous lui faites rater cette chance, il va trouver des solutions dans la communauté et accepter les conséquences qui adviendront.
Ok, merci beaucoup.
Okay, voilà. Radio Okapi,
Okapi. Pour participer à Okapi Service, appelez au 081-890-63-94 et envoyez vos SMS au 081-070-20-50 ou bien écrivez-nous à action@radiookapi.net.
Corneille nous appelle depuis Guémena, dans la province de l'Équateur. Corneille, bonjour.
Bonjour.
Oui, quel est votre... qu'est-ce que vous avez à nous dire, Corneille?
Oui, nous sommes ici à Guémena. J'avais une préoccupation, puisque je coordonne le club des auditeurs de Guémena, Caro 100% Jeune. Oui. Et souvent, nous animons des conférences sur ce sujet ici. Nous avions même conçu un dépliant dans notre association 100% Jeune de Guémena sur thème « Vivre sa sexualité est un art qui s'apprend ». Mais nous avons toujours eu un problème. Quand on anime des conférences avec des parents sur ce sujet, il y a des parents qui nous posent le problème d'héritage. Ils ont dit que ils ont le problème d'héritage puisqu'ils n'ont pas l'héritage sur une notion au sujet de l'éducation sexuelle chez leurs parents. Puisque les parents congolais trouvaient ce sujet tabou. Alors, l'homme ne donne que ce qu'il a. Ils n'ont rien comme notion sur l'éducation sexuelle. Alors, ils font, ils n'ont rien à transmettre à leurs enfants. Alors, cette préoccupation aussi, je l'ai transmets à notre invité. Il pourrait un peu nous parler un peu sur ce sujet. Si cette option vraiment est vraie, qu'ils n'ont pas l'héritage sur l'éducation sexuelle de leurs parents. Ça, c'est la première préoccupation. Oui. La deuxième est de nous donner un peu la différence entre l'éducation sexuelle et le tic-tac sexuel. S'il y a une différence là, qui puisse un peu nous donner. Et ensuite, qui est le garant de l'éducation sexuelle, c'est un adolescent.
Merci beaucoup. Merci Corneille. Monsieur Paul, vous avez la parole rapidement.
Merci Corneille. Au sujet de l'héritage, un parent qui dirait ça, c'est quelqu'un qui ignore son Afrique. Je le dis toujours, l'initiation ancestrale nous est pleine d'héritage en matière de sexualité, dans la mesure où vous savez que la petite fille, le petit garçon apprenait de les bas âges à devenir de plus en plus homme et à devenir de plus en plus femme. Ça, c'était déjà pour la question générale de la vie. Mais en ce qui concerne l'accompagnement, la préparation à la vie du mariage, dans la plupart des coutumes africaines, il y a eu des moments où on isolait les filles pour leur dire comment être une bonne femme, comment être un homme accompli. Et ça, ça se trouve dans notre héritage. Je peux vous, si le temps sur antenne pose problème, mais de vive voix, on pourrait... identifier avec vous l'ensemble des proverbes, l'ensemble des pratiques qui caractérisent même le milieu des Guémena.
Alors vous pouvez les communiquer rapidement peut-être votre numéro de téléphone.
Oui, vous pouvez prendre le 09 99 47 47 127.
Donc vous pouvez appeler Monsieur Paul Mboula après cette émission pour poursuivre vos échanges. Nous avons Shadrack depuis Kananga. Bonjour Shadrack.
Oui, bonjour Monsieur le journaliste.
Oui, allez-y rapidement.
Oui, je me voudrais poser une question à notre invité.
Oui.
Oui, moi j'ai entendu déjà un bébé. C'est un enfant déjà de 5 ans.
Oui.
Et qui dort ensemble avec ses parents. Et la nuit, les parents faisaient ce que vous savez là.
Et l'art puis, sexuel, oui.
L'enfant posait la question à sa maman le matin que je te voyais t'amuser avec ton papa et avec papa.
Oui.
Mais qu'est-ce que vous faisiez la nuit exactement? Mais la maman avait maintenant des problèmes pour répondre à son enfant qui va lui dire tais-toi et puis commencer à frapper l'enfant. Bon, comment on peut répondre maintenant à telle question?
Merci beaucoup, Shadrack. Nous prenons aussi rapidement Kétia depuis Kananga. Kétia, bonjour.
Bonjour.
Oui, allez-y rapidement.
Oui, moi j'ai ma fille de 3 ans.
Oui.
Quand j'étais enceinte de sa petite sœur, elle était tout le temps curieuse de connaître ce qui s'est passé. Mais quand même, je lui ai parlé. Je lui ai dit que non, je vais accoucher. Quand j'ai accouché, elle était contente de dire à tout le monde que j'ai accouché. Mais l'unique problème qui me reste maintenant, je voulais demander un peu à notre invité. Est-ce que c'est le moment? Parce que chaque fois quand elle a un peu mal à son appareil génital, elle me dit, maman, j'ai mal ici. Maman, comment on peut appeler ça? Alors, j'ai dit, est-ce que je peux déjà lui parler? Comme c'est un enfant qui comprend facilement et qui trouve que c'est normal, est-ce que je peux déjà lui donner le nom réel de son appareil génital ou j'ai pas encore mes réserves? Parce que les gens trouvent que je lui parle beaucoup. Mon père même a dit une fois, tu parles beaucoup avec ta fille des histoires qu'elle ne peut pas accéder à comprendre à son âge. Est-ce que maintenant je peux lui parler que non, l'appareil génital féminin s'appelle le vagin par exemple?
Merci.
Par exemple, parce que c'est ça, les noms.
Merci, Katia, pour votre intervention. Alors, Monsieur Paul Mboula, vous allez répondre rapidement à ces deux interventions.
Shadrach, maman n'avait pas de raison de frapper l'enfant parce que ce n'est qu'une conséquence de leur propre comportement.
Oui.
Il y a un certain âge où il faut faire très attention quand on a gardé, quand on dort avec les parents. On connaît, on sait que les conditions économiques ne permettent pas parfois de se séparer tôt avec les enfants. Mais il faut savoir que quand on veut faire l'amour, on ne doit pas le faire en présence des enfants. Ça, c'était une mauvaise façon de faire. Mais l'enfant a vu. Et l'enfant, en le frappant, vous le traumatisez. Et oui. Il peut même dégoûter l'acte génital parce qu'il pourrait croire que ce que vous faisiez avec votre
c'était
mari,
une mauvaise chose,
c'était une mauvaise chose. Alors oui. Et plus tard, elle peut ne pas aimer ça. Donc, c'est le moment de rectifier, c'est le moment de reprendre l'enfant.
Oui.
Et sinon, vous le bloquez, il ne posera plus de questions.
Donc, la maman, là, doit, qu'est-ce qu'elle doit faire? Demander pardon à l'enfant et commencer à l'expliquer maintenant ce que c'était.
Bon, ce n'est plus le moment de revenir sur la question.
Oui.
Mais c'est le moment de rapprocher l'enfant
oui.
et de créer l'ambiance de confiance pour que l'enfant reprenne à poser ses questions.
Alors pour Kétia, est-ce qu'elle doit maintenant dire à son enfant le nom de son appareil génital?
Kétia, naturellement, on dit « j'ai mal au sexe ».
Oui.
Et ça n'a rien d'impudique. L'organe génital n'est pas un appareil, s'il vous plaît, comme le micro que j'ai ici ou tout l'arsenal qui nous entoure et qui nous permet de communiquer.
Oui.
Ce n'est pas un appareil, c'est un organe. Et l'organe génital ne se réduit pas au vagin. C'est pourquoi,
oui.
À cet âge-là, si vous parlez du sexe, vous n'avez pas péché.
Ça suffit, ça casse les limites au sexe. Oui. Voilà, c'est par ici qu'on on met fin à cet échange avec Paul Mboula, éducateur et formateur au service central de l'éducation à la vie. C'est tellement intéressant, on va peut-être y revenir une autre fois. Merci et bonne journée.
Ok. Oh,